Bonne Ford. Tu veux 2-3 000 piastres de plus pour ton échange? Où ça? Ben, chez Donnacona Ford.
Les manchettes sportives, présentées par BPM Sport.
BPM Sport.
La radio des sports au Québec. Yo!
Hey, c'est Jordan. Encore une fête gâchée à Seattle, signée Blue Jays. Good job. Les faces étaient longues hier au T-Mobile Park. Les Mariners se sont encore fait sacrer une volée. Victoire de 8-2 des Jays, série égale 2-2. Max Scherzer a été solide jusqu'en sixième au monticule. Vlad a frappé encore un circuit. Et Andrés Giménez a à nouveau propulsé l'attaque. Prochain match ce soir, encore à Seattle, dès 18h08. Le solide Kevin Gausman sera sur la butte pour les Jets bleus et fera face à Bryce Miller. CH, quel show hier soir! Après un 40 minutes un peu boring, on a eu plus d'action dans le dernier 20. Et encore une fois, une fin de match incroyable. Cole Caulfield qui marque avec à peine 20 secondes à jouer, suite à une magnifique passe et surtout un arrêt spectaculaire de Lane Hudson. Super Lane! Ticole 5 buts en 3 matchs. Victoire de 3-2 contre Nashville in overtime. Prochain match de demain contre les Rangers, toujours au Centre Bell. Dans la LHJMQ, les Remparts sont en action ce soir. Direction Chicoutimi dès 19h, un match contre les Sags au Centre Georges Vézina. Ne manquez pas le match local des Diables Rouges demain 16h contre ces mêmes Sags. Un doublé contre les rivaux éternels. Et dans la Ligue nord-américaine, un match ce soir à ne pas manquer pour votre national. Une revanche contre les Bataillons, en plus à l'ancienne Lorette au complexe sportif Bonaire. Ça débutera à 19h30. Pas le choix d'aller chercher ça.
Pour plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Présenté par votre centre agricole.
En octobre, profitez d'un financement à 0% sur 84 mois sur tous les tracteurs compacts Mahindra. Détails sur centreagricole.ca. Mahindra. Sortir des sentiers battus.
Chez Top Cornichon, il y a de l'action.
Youpi!
Dès maintenant sur l'appli de Télé-Québec, des personnages rigolos piquent la curiosité de vos enfants.
Cornichou, j'ai une idée!
Avec eux, ils apprennent.
Il faut faire très attention quand on veut traverser la rue.
Et bouge tout en s'amusant.
On va faire des mouvements en même temps. Suis-moi!
Téléchargez l'appli de Télé-Québec.
Bonne idée!
Où vous trouverez plein d'émissions qui plairont aux tout-petits.
Oh! Regarde-toi aussi.
Bon travail, les amis.
Top Cornichon, dès maintenant à la télé, sur le web et l'appli de Télé-Québec.
En octobre, chez Beauport Mazda, c'est la grande liquidation des véhicules d'occasion. Financement à partir de 3,95%, pneus d'hiver inclus et bien plus. Venez vous informer. Beauport Mazda, rue Clémenceau, 667-3131.
Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent sa promo 2 repas pour 26 $ au comptoir à emporter ou 2 repas pour 30 $ en livraison parmi 5 plats vedettes.
C'est Halloween et ça vous rappelle que gérer le bloc dont vous êtes propriétaire, c'est l'horreur et ça fait peur. Arrêtez de creuser votre tombe. Airfortin.com peut l'acheter n'importe où au Québec, sans condition ni garantie légale. En 48 heures, Airfortin vous remet une offre d'achat aussi sérieuse qu'avantageuse, sans bonbons à donner, ni de commission à payer. Fini le mal de bloc. Profitez enfin de la vie. Allez sur Airfortin.com.
Lui, il faut l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
Dans la PME de Julie, le commerce de Benoît ou une grande entreprise, tout le monde a un rôle à jouer en matière de santé et de sécurité au travail. Depuis le 1er octobre 2025, la loi sur la santé et la sécurité du travail a été modifiée. Et les plus grands, comme les plus petits milieux de travail, ont de nouvelles obligations concernant les mécanismes de prévention et de participation. Pour connaître les changements qui vous concernent, visitez le cnesst.gouv.qc.ca/nouveautés-sst. Un message de la CNESST.
Arrêtez de chauffer le dehors! Isolez votre entretoit avec Isolation Frontenac. L'hiver arrive, c'est le temps d'effectuer vos travaux pour vous assurer d'économiser sur votre facture d'électricité. Rive-Sud, Rive-Nord de Québec, jusqu'à 1h30 des ponts, les experts d'Isolation Frontenac vous offrent un service impeccable. En plus, vous profitez de la subvention Logiver de 1 500 $ pour isoler votre entretoit. Demandez votre soumission gratuite. Appelez au 418-425-7778 ou visitez le isolationfrontenac.com.
Dans ton Jeep Compass, t'as tout ce qu'il faut pour l'aventure. Transmission 4x4? De série. Confort et technologie? De série. Rouler, s'évader, respirer la liberté, ça aussi de série. Avec le Jeep Compass, l'aventure, c'est de série.
Louer un Jeep Compass Nord 4x4 2026 pour 108 $ par semaine pour 51 mois avec 1 999 $ d'acompte ou achetez-le à partir de 42 850 $. 12 000 km par an, 16 sous-10 km excédentaires sur approbation de crédit, détail chez votre concessionnaire.
Si vous cherchez un abri pour votre voiture cet hiver, n'oubliez pas de choisir celui de 5 lettres qui commence par un T. L'abri Trévi, que vous pouvez maintenant commander en ligne sur trévi.ca. Quand vous pensez abri, pensez Trévi. Merci Trévi.
John Pro, c'est votre partenaire en entretien ménager commercial. Pour votre clinique, bureau, garderie et plus, que vos besoins en ménage soient petits ou gros, c'est John Pro. J-A-N, Trédunion, P-R-O.
Cette semaine, chez Métro, on fait pas la grève sur les économies. Même si votre circulaire n'est pas arrivé par la poste, les économies, elles, sont arrivées sur plus de 7500 produits. Comme les poitrines de poulet frais désossées à 5,44 la livre ou 11,99 le kilo, les cassoules bleues 170 grammes sont à 2,44 et le beurre sélection 450 grammes est à 4,88. Retrouvez toute la circulaire complète en ligne au métro.ca. Les conditions s'appliquent. Détails en magasin.
Depuis plus de 15 ans, le groupe GSC vous offre des formations complètes et intensives pour réussir vos examens de la RBQ. Un vrai clé en main pour les entrepreneurs en construction. Avec nos formations bilingues et hybrides, en classe ou en ligne, outillez-vous pour obtenir votre licence RBQ avec des horaires flexibles, conciliés études, travail et vie de famille. GroupeGSC.com, votre avenir en construction commence ici, à Laval, Brossard, Gatineau et Québec, au 1995 Frank Carrel. Groupe GSC, formé pour bâtir.
Escale VR Beaumont prolonge sa grande vente aux Galeries de la Capitale jusqu'au 26 octobre. Escale VR produit maintenant sa propre classe B Kohana, entièrement fabriquée ici à Beaumont. Venez découvrir le premier modèle dès ce vendredi aux Galeries de la Capitale. Sur place, jeux gonflables, rabais jusqu'à 25 000 $, financement jusqu'à 20 ans, taux à partir de 4,99%. 2 ans d'ouverture et fermeture gratuite avec vérification d'étanchéité. Escale VR Beaumont aux Galeries de la Capitale. En face de Meubles RD jusqu'au 26 octobre.
Vous voulez des deals?
Damn good deals.
Des gros deals.
Wow. Radio X.
Découvrez l'encore Radio X en ligne au radiox.com.
Radiox.com.
Des aubaines de fou. Fermeture de piscine par Piscine de Rive. Souffleur à feuilles de performance Emma. Isolation d'entretoit par Isolation Frontenac. Cours de conduite de l'école de conduite Pointe-Lévis et plein de certificats cadeaux.
Wow.
Tout ça à partir de 25 % de la valeur seulement. Mais attention, l'encan se termine le dimanche 19 octobre. Cliquez et misez dès maintenant au radiox.com, onglet encore.
Radio X.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Choix.
Choix.
Radio X. À Québec,
Québec.
C'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion. Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.
Bienvenue dans les Radio X Files en ce vendredi soir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, la thématique se portera en fait sur les ovnis et les extraterrestres. Et pour en parler, nul autre que Christian Page. Bonsoir, Christian.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien toi-même?
Oui, oui. Écoute, on est revenu un peu à notre... un peu quand on fait la roue de nos thématiques.
Oui.
Hein, on commence OVNI, parapsychologie, énigme de l'histoire, question du public, et on revient finalement, la boucle se revient avec la question des OVNI. Donc, on est revenu en fait à notre fameuse boucle. Et oui, ce soir, la question des OVNI. Écoute, les OVNI en eux-mêmes, là, c'est peut-être dans l'actualité étrange et paranormale, parce que... Moi, je suis... On a comme des mots-clés. Là. Je suis abonné à plein de journaux et magazines. Et on, les abonnements, ben, on entre des mots-clés. Hein. On veut, quand les journaux publient, on entre le mot-clé. Bon, OVNI, en anglais, c'est UFO. Fait qu'à chaque
ouais.
fois que le nom apparaît, le mot apparaît dans les médias ou des articles de journaux, moi, je reçois un avis. Bon, Washington Post a publié un article sur les UFO. Mais... Et c'est vrai que ce sujet-là des OVNI, c'est sans aucun doute le sujet qui alimente le plus l'actualité dans la sphère de l'étrange et de l'insolite. Là. C'est incroyable la quantité de nouvelles qui circulent sur les ovnis. Bon, pas toujours très pertinentes, là, mais néanmoins, c'est toujours un sujet qui est très, très, très d'actualité. Et j'essaie, à chaque fois que la boucle tourne, j'essaie toujours de trouver les sujets les plus intéressants. puis ceux également qui ont le plus d'alimentation sur lesquels on peut discuter, hein, parce que bon, quelqu'un, si je te raconte que Monsieur Théberge à Chibougamo a vu un ovni, je te dire qu'il a vu trois lumières dans le ciel, la conversation va s'arrêter là.
On est très heureux
donc on n'aura pas de grosse conversation. Donc je t'ai encore choisi pour ce soir, pour les auditeurs, j'ai choisi quatre sujets qui ont attiré particulièrement mon attention. Dans le cas de notre premier sujet, j'ai également mis sur le site des Radio X-Files, le site Facebook des Radio X-Files, j'ai mis également une adresse où les gens pourront, si on clique dessus, ça pourra les ramener sur YouTube, où ils verront une vidéo de 17 minutes 30 secondes. En fait, c'est une vidéo qu'on appelle l'OVNI de El Takadoum. El Takadoum, ça se trouve en Irak. Donc, parce qu'on va en parler, hein, et c'est toujours un peu pertinent de pouvoir voir l'image en question avant que les gens puissent décanter un peu l'information qui tourne autour. Et donc, oui, cette première nouvelle, c'est l'OVNI d'El Takadoum qui a été analysé et étudié par l'ARO, hein, le bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Hein, c'est ce que l'acronyme en anglais veut dire. Et c'est un organisme étatique qui a été mis en place en 2022 à la demande du Congrès américain pour enquêter sur les histoires d'OVNI. Je fais quand même un petit aparté parce que l'ARO, c'est quand même étonnant que c'est une organisation qui est née comme étant des sauveurs. Hein, c'était des héros. Ils sont devenus des zéros dans le milieu des amateurs d'OVNI. Là. Quand l'organisation a été créée en 2022, les amateurs d'OVNI, on allait sur les médias sociaux, Facebook et tout le reste. Et dans la communauté des amateurs d'OVNI, c'était comme l'ARO, c'est devenu la nouvelle affaire qui est la plus belle invention depuis le pain tranché. Là, hein? Ça allait révolutionner le monde. Écoute, il y a des gens, des amateurs d'OVNI, qui allaient même jusqu'à dire que le monde allait changer. Il y aurait un avant ARO et un après ARO. Hein? L'ARO allait révéler au monde entier que on était visités par des extraterrestres. Le monde était enfin prêt pour la grande révélation. Moi, en passant, je te dis que la première chose qu'on me dit quand j'ai rejoint les milieux ufologiques dans les années 70, c'est « la révélation est pour bientôt ». Oh, et là, on était en 1976. Et en 2025, donc 49 ans plus tard, elle est toujours pas arrivée, la grande révélation imminente.
Petit aparté, Christian, petite question comme ça. À partir de quel moment dans l'histoire l'humain s'est mis à s'intéresser aux extraterrestres, aux ovnis? C'est-tu à partir du moment où les États-Unis allaient dans l'espace? Ou...
Non, en fait, évidemment, indépendamment des sources que tu vas consulter, c'est sûr qu'on peut remonter jusque dans l'Antiquité. Okay. Hein, les amateurs d'ovnis vont dire, ouais, quand on regarde des anciens textes dans la Bible, par exemple, on nous dit que Ézéchiel, près du lac, a vu une nuée dans le ciel, des animaux avec des ailes. Bon, pour ces gens-là, la vision d'Ézéchiel devient l'arrivée d'un vaisseau spatial sur Terre. Dans certaines fresques ou peintures rupestres, hein, donc là on recule même dans la préhistoire, il y a des représentations qui, pour vues avec les yeux de personnes qui sont habituées aux voyages spatiaux comme nous le sommes, ben, peuvent être interprétées comme étant des aéronefs dans le ciel. Bon, évidemment, tu auras bien compris que les archéologues ou les exégètes, les exégèses qui travaillent sur des textes anciens, n'ont pas la même définition de ce que l'on voit. Hein. Bon, pour eux, la vision des n'a rien à voir avec les extraterrestres, c'est plutôt une allégorie avec l'arrivée de Dieu ou la création d'un messager ou d'un prophète. Hein. Donc, dans toutes les religions du monde, par exemple, quand Ézéchiel dit « je vis un char de feu », ben, si toi tu vois un vaisseau spatial, c'est bien, mais les exégètes te feront remarquer que dans l'histoire, Dieu est toujours représenté par le feu. Et pour un peuple hein, comme les Hébreux, par exemple, c'est un peuple de montagne, c'est un peuple qui est pas super puissant. Qui sont les puissants de cette époque? Les Romains sont des puissants, les Grecs sont puissants, les Égyptiens sont des puissants. Et ce qui caractérise les puissants, c'est qu'ils ont des chars. Hein? Les Hébreux ont pas des chars, mais les Grecs ont des chars, les Romains ont des chars, les Égyptiens ont des chars. Donc quand Ézéchiel dit « je vis dans le ciel un char de feu », ben le char représente la puissance, hein? comme les Grecs ou les Romains. Puis un char de feu, ben c'est Dieu. C'est Dieu qui arrive sur son char. Hein, Dieu arrive pas en gougoune, là. Hein, Dieu arrive sur un char de feu. C'est donc, tu vois l'allégorie, là, ici, là. Bon, si toi, tu veux voir un vaisseau extraterrestre, ben, libre à toi. Donc, on peut faire cette gymnastique puis reculer jusque dans l'Antiquité puis dire, ben voilà, on a des représentations ou des textes qui font référence à des objets dans le ciel. Mais si on regarde plutôt l'ère moderne, hein, à quel moment dans l'ère moderne on va commencer à voir dans le ciel des aéronefs mystérieux et en parler, où ça va devenir en fait un sujet de discussion là, très élargi, c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, après la guerre, des gens vont commencer à voir dans le ciel des aéronefs, des objets étranges, qu'ils vont rapporter comme des engins d'origine exotique. Mais il faut quand même se dire que entre 1945, disons que pour les amateurs d'OVNI, on s'est entendu sur une date, et cette date, c'est le 24 juin 1947. C'est la date à laquelle un pilote civil qui survolait le Mont Rainier dans l'État de Washington a observé 9 objets qui ressemblaient un peu à des croissants et qui allaient très, très vite. En fait, ces objets-là, selon son estimation, se déplaçaient 2 fois plus vite que la vitesse du son. Et quand il s'est posé à l'aéroport, donc, il était persuadé qu'il avait observé des engins d'origine soviétique, hein, parce que, faut quand même se le dire, on était au-dessus du Mont Rainier dans l'État de Washington, et si on fait abstraction un peu de la côte du Canada, là, de la côte de la Colombie-Britannique, qu'est-ce qu'il y a de juste en face de l'État de Washington? Ben, c'est l'Union soviétique, c'est la Russie d'aujourd'hui, là. Oui. Par contre, et à cette époque, bien évidemment, c'était la guerre froide, c'était ce bras de fer qui se jouait entre les deux superpuissances. Donc, ce fameux Kenneth Arnold, quand il observe ces fameux croissants volants, lorsqu'il se pose, on est un vendredi après-midi. D'ailleurs, à cette époque, si on voulait envahir les États-Unis, c'était le bon moment, le vendredi après-midi, parce que on découvre avec l'affaire de Kenneth Arnold que les bureaux du FBI sont fermés le vendredi après-midi. Donc, Kenneth Arnold se pose à l'aéroport, se rend rapidement au bureau du FBI local pour signaler ce qu'il a vu. Et là, il se bute à une porte close. Donc, il retourne à l'aéroport et il parle autour de lui aux autres pilotes qui sont là en attente de vol, tout ça. C'est un pilote civil, on s'entend. Il a son petit avion. Il vend des marchandises là, pour combattre les incendies, des fournitures d'incendie. Donc, il est là, à la cafétéria, puis il parle avec des gens autour de lui. Puis il dit, hey, c'est incroyable, j'ai vu au-dessus du Mont Rainier ces fameux objets. Et là, éventuellement, ça arrive aux oreilles d'un journaliste qui l'invite dès le lendemain matin dans son bureau pour raconter son histoire. Et ce journaliste va publier dans le journal un article dans lequel il dit, un pilote civil a vu des soucoupes volantes. Hein, le terme est lancé. C'est là qu'il apparaît pour la première fois, là, officiellement. Mais en fait, Kenneth Arnold n'a pas utilisé le mot soucoupe volante pour décrire les objets, mais plutôt pour décrire leur mouvement. Hein, quand il parle avec le journaliste lui demande à quoi ça ressemblait ces fameux objets extraordinaires que vous avez vus. Et Kenneth Arnold répond, il dit, ça ressemblait à des croissants volants avec un centre plus sombre. Et là, le journaliste lui a demandé, et est-ce que ça se déplaçait comme des avions conventionnels? Kenneth Arnold prend un moment d'arrêt et lui dit non, ça se déplaçait plutôt comme des soucoupes que l'on aurait fait ricocher sur de l'eau. C'est quand même une figure de style étrange. Généralement, on parle d'un caillou, d'un galet qu'on aurait fait ricocher sur de l'eau. Mais Kenneth Arnold dit non, comme une soucoupe qu'on aurait fait ricocher sur de l'eau. Et le journaliste, lui, ben, il fait pas ni un ni deux. Hein. Il publie son article en disant un pilote a vu des soucoupes volantes. Mais en réalité, ce qu'avait vu Kenneth Arnold, c'était des croissants volants qui se déplaçaient comme des soucoupes qui ricochaient. Mais bon, peu importe, le terme était lancé. Et donc, à partir de cette date, le 24 juin 1947, on va ouvertement parler de soucoupe volante. Mais déjà à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des pilotes au-dessus de l'Europe avaient rapporté des objets mystérieux, des lumières étranges. Bon. Mais c'est vraiment, si on veut avoir une date, parce qu'on aime bien avoir une date pour un élément de référence, c'est vraiment le 24 juin 1947. Mais il faut attendre le début des années 50 pour que dans l'imaginaire collectif, les extraterrestres percolent. Hein, au début, là, je te dirais, entre 1947 et grosso modo 1952, Quelques articles évoquent la possibilité, on ne parle pas encore d'astronautes, on n'est pas encore allé dans l'espace. Hein. Le premier satellite artificiel autour de la Terre, c'est 1957, hein, en octobre 57, avec le Sputnik. Donc, à ce moment-là, là, en 1947, les voyages dans l'espace, on est 10 ans avant. Là. Mais quelques articles de journaux très aventuriers, disons-le comme ça, ce risque en disant, et si ces fameuses soucoupes volantes étaient pilotées par des aviateurs venus d'une autre planète? On parle pas d'astronautes, on dit des aviateurs venus d'une autre planète. Mais ce n'est pas vraiment l'hypothèse la plus répandue. Entre 1947 et 1952, l'hypothèse la plus répandue, c'est que ces objets, ces fameuses soucoupes volantes, sont ou bien des engins secrets développés par l'armée en secret, ou bien des engins russes. Hein, parce que, bon, il y a toujours cette peur du communisme qui nous guette, hein, donc les Russes. Et ce qui ajoute d'autant plus à l'idée des Russes, c'est que à la fin de la guerre, les Allemands, qui avaient un pas d'avance un peu sur le reste des nations dans le domaine de l'aéronautique, avaient développé un premier chasseur turbopropulsé. Et ce turbochasseur propulsé s'appelait le Horten HO-229. Et le HO-229, crois-le ou non, il avait la forme d'un croissant volant. Mais les armées du Troisième Reich ne l'ont jamais commercialisé. Hein. L'avion, il n'est jamais arrivé sur les chaînes de montage. En fait, on est arrivé trop tard. On avait développé, des ingénieurs de la Luftwaffe allemande avaient développé sur papier ce prototype. On en avait fabriqué deux ou trois pour les mettre à l'essai. Et quand est arrivé le temps de passer au montage, on était déjà tardivement en 1944, l'armée allemande avait essuyé de nombreuses défaites. On croyait vraiment, on appelait ça des Wunderwaffen, hein, les armes miraculeuses. Ça devait sauver le Troisième Reich, ces armes miraculeuses. Malheureusement, quand les Allemands ont voulu commercialiser, ou à tout le moins sur les chaînes de montage, produire en série le HO-229, une erreur des ingénieurs fait que le moteur était trop gros pour entrer dans l'espace moteur. Donc, il a fallu renvoyer les ingénieurs à leur planche à dessin.
Mauvais calcul,
mais à ce moment-là, la guerre était déjà perdue pour l'Allemagne. Et quand les Alliés, on parle des Américains et des Russes qui sont arrivés en Allemagne, ben là où on avait commencé à construire les HO-229, on a détruit les prototypes. Mais néanmoins, à la fin de la guerre, le savoir allemand s'est partagé entre les Américains et les Soviétiques de l'époque. Et ces gens-là, les savants allemands dans le domaine de l'aéronautique, ont été exfiltrés vers ou l'Union soviétique ou les États-Unis. Dans le cas des États-Unis, c'était un projet qui s'appelait le projet Paperclip. On a permis à ces anciens nazis de redevenir des bons citoyens du côté des États-Unis pour travailler au développement éventuellement du programme spatial américain. Donc, tout ça pour te dire que comme les Allemands travaillaient sur ce fameux prototype qui ressemblait à un croissant volant, quand arrivent les premiers signalements, et en particulier l'observation de Kenneth Arnold, qui dit « J'ai vu des croissants volants », tu comprends qu'en haut lieu, dans l'état-major américain, on se dit « Tiens, 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 un pilote civil voit au-dessus du mont Rainier des croissants volants. » Et la façon dont il les décrit, ça ressemble étrangement au HO-229. Bien sûr, le HO-229 n'a jamais officiellement vu le jour, mais comme les Soviétiques ont récupéré le savoir allemand dans le domaine de l'aéronautique, ou à tout le moins une partie du savoir allemand, puisque l'autre partie, ce sont les Américains qui les ont récupérés, les Américains se posent la question, est-ce que les Soviétiques seraient pas en train de construire un HO-229 version 2.0, tu comprends? Parce qu'ils ont récupéré le savoir allemand. Et c'est probablement la raison pour laquelle, en 1947, les Américains vont se lancer pour une première fois dans l'étude des ovnis en créant, dès décembre 1947, un premier projet d'étude sur les ovnis qui va s'appeler le projet SIGN. On ne parle pas d'étudier les ovnis, on parle d'étudier les soucoupes volantes. Hein, c'est le nom que ça a à l'époque. Le mot ovni n'a pas encore été inventé. Et c'est probablement, les gens pensent que, de façon générale, puis les amateurs d'ovnis aiment ça nous faire croire ça, là, que les Américains, les hauts gradés américains étaient au courant de visites extraterrestres, c'est pour ça qu'ils ont créé le projet SIGN. C'est de la foutaise, ça. En réalité, pourquoi l'état-major américain s'est intéressé aux soucoupes volantes dès 1947? C'est parce que les premiers témoignages faisaient référence à des croissants volants qui ressemblaient à des armes allemandes qui n'ont jamais vraiment vu le jour, mais qui étaient déjà sur les planches à dessin dès la fin de 1945. La fin de 1944, début 1945. C'est la seule raison. Et très rapidement, les Américains ont commencé à s'intéresser via le projet SIGN à ces soucoupes volantes pour découvrir finalement qu'il y avait à peu près rien là-dedans. Mais pour le grand public en général, quand on parlait des soucoupes volantes entre 1947 et 1952, On parlait surtout d'engins qui étaient possiblement d'origine russe. Si je devais traduire le mot soucoupe volante dans l'imaginaire populaire de 1947, c'était quelque chose, on appelait ça une soucoupe volante, mais si on demandait aux gens qu'est-ce qu'une soucoupe volante, ils t'auraient répondu quelque chose qui vole, puis on sait pas trop c'est quoi, ouais. Mais c'est probablement d'origine russe. C'est ça que ça voulait dire. Derrière le mot soucoupe volante, c'est ça que ça voulait dire. Mais bon, à partir de 1952, des auteurs très populaires, je pense notamment à un ancien de la US Navy, un type qui s'appelle le major Donald Keogh, qui va s'intéresser aux soucoupes volantes, va commencer. Lui, il fait beaucoup dans la... Il brode beaucoup autour des extraterrestres. Hein? Et très... Les ouvrages de Donald Keogh deviennent très populaires. Et peu à peu, à partir des premiers livres de Donald Keogh, là, on est début 1950, on voit dans l'opinion publique peu à peu là, se familiariser l'hypothèse que les soucoupes volantes sont des engins extraterrestres. Donc, c'est de là que ça revient. Mais okay. Tout ça pour revenir à notre histoire d'aujourd'hui. Donc, en 2022, c'est le gouvernement américain avait cessé de s'intéresser officiellement aux soucoupes volantes à partir de 1969. Décembre 1969, le projet de l'époque s'appelait Projet Blue Book, qui était en fait la succession du fameux projet SIGN dont j'étais parlé. Là. En décembre 1947, les Américains mettent de l'avant le projet SIGN. Il va changer de nom en cours de route. Le projet SIGN va devenir le projet Grudge et le projet Grudge va devenir finalement le projet Blue Book. En décembre 1969, le projet Blue Book cesse ses activités, publie ses conclusions en 1970, janvier 1970, en disant, il n'y a rien là-dedans, il y a un faible pourcentage de cas qu'on n'explique pas, mais rien ne prouve qu'on est visité par des extraterrestres, puis bon, merci, bonsoir, on passe à autre chose, c'est dans le sens circulé, il n'y a rien à voir. Et puis en 2022, devant la pression du public, le gouvernement, le Congrès américain a demandé aux Américains, au département de la Défense, maintenant le département de la guerre, de rouvrir une enquête sur les ovnis. Et à ce moment-là, on a changé le nom. Les ovnis sont devenus les pannes ou les panis, hein, les phénomènes aériens non identifiés. Et on a créé donc ce fameux programme LARO. Et c'est ce que je disais tantôt, c'est que LARO, quand il a été mis de l'avant, ben, les amateurs d'ovnis croyaient que ce serait la révolution, puis on aurait la grande révélation et tout le reste. Puis finalement, c'est pas arrivé. Parce qu'à partir du moment où LARO a commencé à s'intéresser à la question des ovnis, ben, tous les cas qu'ils ont publiés après enquête se sont tous révélés exactement ce qu'avait déjà dit le projet Blue Book dans les années 60. Oui. Circuler, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est des erreurs d'interprétation. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Puis là, je vais devoir faire vite parce que je vois le temps qui file, puis j'aimerais passer à d'autres. Mais ce qui est arrivé avec l'OVNI de Takadoum, donc c'est une vidéo qui s'est mise à circuler, bon, qui a été tournée le 23 octobre 2017. Ça a été tourné au-dessus de la base militaire de l'armée américaine à Al-Takadoum, qui se trouve en Irak. Donc les Américains ont des installations locales. Et à ce moment-là, donc ce fameux 23 octobre 2017, il y a un dirigeable, un drone de surveillance qui est au-dessus de la base, qui est là pour surveiller la possibilité d'appareils ennemis, en particulier des drones explosifs. On en voit beaucoup là, sur l'Ukraine, durant la guerre Ukraine, là, de ces drones chargés de bombes et explosifs. Donc, on est là, le dirigeable est là pour surveiller une éventuelle attaque ennemie. Et il va donc filmer ce curieux objet qu'on voit, là, dont j'ai mis la vidéo en ligne, et où on voit cet objet qui passe au-dessus de la base. Il est donc filmé par ce dirigeable. C'est un dirigeable qui a pas de pilote, hein. C'est un appareil sans pilote, un UAV, là. Et donc, il filme pendant 17 minutes la présence de cet objet qui traverse le ciel au-dessus de la base. Et là, cet objet-là, ben, éventuellement, ce film-là s'est retrouvé entre les mains des amateurs d'OVNI, puis ils en ont fait de la promotion, puis ils l'ont décrit, puis certains l'ont appelé la méduse volante, bon, n'importe quoi. Moi, la première chose que je fais, avant même de regarder les commentaires pour, contre ou quoi que ce soit, je regarde l'image. Et quand je regarde l'image, je me dis, est-ce que ce que je vois a de l'air d'un engin hyper évolué venu d'une autre galaxie? Tu comprends? C'est ma première question, là. Et c'est pas ça. Quand tu regardes ce film-là, ta première réaction, que tu t'intéresses ou non aux ovnis, ça n'a pas d'importance. Tu t'assois, tu regardes cette image-là, et je te demande, Nick, à quoi ça ressemble? Et tu vas me répondre, mais tabarnouche, ça a l'air d'un paquet de ballons qui volent tout seul. Ça a l'air d'un ballon. Ça n'a pas l'air d'un engin venu d'une autre planète. Ça a l'air d'un ballon. Et c'est exactement ça que c'est aussi. Donc, les amateurs d'OVNI montent ça en épingle, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Non, c'est le narratif que tu racontes avec cette histoire-là qui semble dire que c'est extraordinaire. Mais si on regarde l'objet lui-même, on a l'impression que c'est un paquet de ballons qui volent au-dessus d'une base. Et c'est exactement la conclusion de Laro. Donc, ils l'ont mis en ligne il y a quelques jours. Et ils expliquent que cet objet-là, parce que eux, ben, tu comprends, comme Laro est un organisme étatique qui a été créé par le département de la Défense ou le département de la guerre, ces gens-là ont accès à toutes les données télémétriques, pas rien que le film, mais où se trouvait le dirigeant, ouais, à quelle altitude il était. Bon, et à partir de toutes ces données-là, ben, ils arrivent à la conclusion que ce que l'on voit, ce n'est rien de plus qu'une grappe de ballons qui survole la base. Ils ont été en mesure de déterminer que l'objet, comme c'est toujours difficile quand on ne sait pas exactement ce que c'est de déterminer la dimension, tout ça, ils estiment que l'objet en question se trouve... le dirigeable, lui, on sait son altitude, il était à 2000... Là, je te donne des mesures en pieds parce que ça vient des Américains. Donc, l'objet, le dirigeable, se trouve à 2700 pieds au-dessus de la base. L'objet que l'on voit sur les images, la fameuse méduse, là, ou l'objet étrange, là, lui se trouve quelque part entre 850 et 2200 pieds. Il se déplace dépendamment de son altitude, hein, en allant de la plus basse à la plus haute, il évolue à une vitesse d'à peu près de 4 à 14 000 à l'heure, ce qui est la vitesse des vents, finalement. Donc, l'objet se déplace en suivant le mouvement des vents, et il a été filmé en infrarouge, donc une caméra un peu qui monte toujours un peu en noir et blanc, et ce n'est rien de plus, hein. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été évoquées, mais l'hypothèse la plus vraisemblable, parce que il faut toujours se rappeler que dans l'univers de l'étrange et du surnaturel, on n'est jamais dans l'absolu, à moins d'avoir l'objet entre les mains. Et cet objet-là, on ne l'a pas. Là, l'objet filmé au-dessus de Al Takadoum, on ne l'a pas entre les mains. Mais si on va de l'hypothèse la plus vraisemblable vers la moins vraisemblable, ben la plus vraisemblable, en fonction de la vitesse de l'objet, entre 4 et 14 000 km, 1000 à l'heure, une altitude entre 800 et 2200 pieds, ben ce que l'on voit là est très certainement à 99,99% une grappe de ballons. Donc, il y a dû y avoir une fête localement dans une... Hein, dans un campement quelque part sur la base, des militaires ont fêté, etc. Puis bon, ben, ils avaient une grappe de ballons, puis ils l'ont lâché, puis les ballons ont survolé la base,
voilà.
Et ont été filmés par le dirigeable. Et ensuite de ça, ben, le reste, c'est la rumeur qu'aiment beaucoup entretenir les amateurs d'OVNI. La vidéo s'est retrouvée dans l'UFOsphère, et l'UFOsphère s'est excité autour de ça. Mais encore une fois, une nouvelle enquête menée par Laro qui se termine littéralement en cul-de-sac en disant, ben voilà, ce n'était rien de plus que des ballons.
Okay.
Et ma première réaction en voyant l'image, ça a été de me dire, c'est des ballons.
Mais oui.
fait que voilà, donc on fait une pause.
Bien sûr.
Et après ça, je te parle. De quoi tu veux que je te parle?
Ben, il y a plusieurs choses intéressantes. Le 3i Atlas, entre autres, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. Ah,
je savais que tu choisirais le 3i Atlas parce qu'il n'y a pas une journée qu'on ne voit pas apparaître dans les médias sociaux quelque chose sur 3i Atlas. Alors, on s'en reparle après la pause.
Donc, bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. On revient après ceci.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Le Space.
Ah, voilà.
Cast.
Ça roule, chaud, là. Hein? Ça roule.
Le Space Cast.
Avec JF Blake.
Non, mais incroyable.
Et Louis Gauvin.
I am a machine, incroyable.
Lundi au jeudi.
Regarde mes pieds.
19h.
Radio X.
Le Space Cast, présenté par la Taverne Grande Allée. Pour ton party de bureau, réserve maintenant ton forfait de groupe clé en main. Perds pas de temps. Contacte-nous à la Taverne Grande Allée.
Honda, c'est sûr.
Où tu vas comme ça?
Ben, à Marine.
Mais c'est cours de salle ça, ce soir.
C'est sûr que lorsqu'on profite de la technologie à deux moteurs hybrides comme sur le Honda CR-V Trail Sport, on peut penser qu'il est facile de faire deux choses en même temps.
Ben, c'est ça. Trois périodes de soivé, là.
Ah ouais, le soivé.
Avec la fiabilité légendaire Honda et sa tenue de route exceptionnelle, retrouvez le plaisir de conduire à bord du CR-V Trail Sport hybride 2026. Louez-le à partir de 3,99% pendant 24 mois. Sur approbation de crédit, détails sur Honda.ca. Honda, c'est sûr.
C'est la méga vente chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les 18 gros œufs à 4,77, le poulet entier à 1,99 la livre, 4,39 le kilo et les framboises à 1,37. Pas de circulaire par la poste? Pas de problème. Plus de rabais en ligne sur maxi.ca.
Alice, c'est l'heure d'aller à l'école.
J'ai mis une bouteille d'eau dans ta boîte à lunch avec des petits légumes et une pomme pour la collation. J'ai aussi mis des vêtements de rechange dans ton sac et n'oublie pas de mettre ton chapeau fleuri pour te protéger du soleil à la récréation. Passe une belle journée.
La santé de votre enfant vous tient à cœur. Mais avez-vous pensé à faire examiner sa vision?
Avant d'entrer à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu.
Dominant ou dominé? Magasinez au sensationplus.com et découvrez le plus grand choix de produits BDSM et fétiches disponibles en ligne. Livraison rapide et discrète. Sensationplus.com.
Quand j'avais des douleurs aux genoux, j'en parlais à tout le monde. À mes collègues.
Bonjour tout le monde, j'ai mal aux genoux.
À mon chien.
J'ai mal aux genoux.
Mais le mieux, c'est d'en parler à son médecin et de demander Cingal, le seul traitement qui, en une seule injection, agit rapidement et soulage à long terme les douleurs causées par l'arthrose du genou. Allez sur Cingal.ca, Cingal.ca, afin de localiser une clinique. Cingal. Pour ne plus parler de vos douleurs aux genoux, parlez-en à votre médecin. Cingal peut ne pas convenir à tout le monde. Si vous avez des questions relativement à ce produit, consultez votre médecin.
Derrière chaque matelas que Matelas Dauphin fabrique, il y a une méthode, une précision, une qualité signée Dauphin. C'est avec fierté et passion que depuis 1970, on vous fabrique de belles nuits. Profitez de notre vente prix entrepôt sur nos matelas et obtenez 50 % de rabais sur tous les formats de matelas silhouette ultra confortables, dont le double en spécial à 589 $. La vente prix entrepôt dans tous les matelas Dauphin. Une entreprise 100 % québécoise.
Salut Karine! Est-ce que ça va bien?
Oui, Nissan, mais pourquoi on est aussi rock?
Parce que ça prend une entrée en matière que du mordant. Le nouveau Rogue Rock Creek 2026 est arrivé.
Oh, avec son allure robuste, ses caractéristiques tout-terrain et la traction intégrale de série? OK, on repart ça. 3, 4!
Le nouveau Nissan Rogue Rock Creek est maintenant disponible à la location à partir de 1,9 % jusqu'à 36 mois.
Inclus réduction fidélité pour propriétaires Nissan admissibles jusqu'au 31 octobre sur approbation de crédit. Les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Je bouge pour être bien dans mon corps et dans ma tête, pour conserver mon autonomie, pour rester chez moi longtemps et pour continuer à jouer avec mes petits-enfants. Et bouger à mon âge, ça peut être simple. Je sors marcher dehors, je choisis parfois l'escalier plutôt que l'ascenseur ou je fais une activité qui me plaît, comme le vélo, la danse ou le tai chi. Je l'intègre à mon quotidien pour moi et pour ceux que j'aime. Bouger plus, vieillir mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Retrouvez le plaisir de sourire en toute confiance. Au Centre dentaire Cartier, anciennement Girard et Martineau, l'implantologie dentaire, on s'y connaît. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une consultation sans frais et découvrir nos solutions sans greffe osseuse. Nous offrons également des soins dentaires complets, du nettoyage à la dentisterie esthétique pour toute la famille. Centre dentaire Cartier, c'est une équipe humaine et professionnelle qui saura être disponible et à l'écoute de vos besoins. Alcartier Québec.
Tanné que le ménage de votre environnement de travail soit fait comme le ménage d'une chambre d'ado? Ben faites affaire avec John Pro. Commerce, clinique, garderie, bureau. Si vous voulez ça tout propre et tout beau, que vos besoins en ménage soient petits ou gros, choisissez les experts de John Pro. J-A-N, trait d'union, P-R-O.
Salut les enfants. Quoi de neuf pour ce mois-ci?
Chez Lévis Chrysler, on a le Ram 2026 garanti 10 ans, 160 000 km à 0 % sur 72 mois. On a vraiment confiance dans notre pick-up.
Chez Lévis Mazda, le CX-30 en location 48 mois à 93 $ par semaine. Il est beau, là, le CX-30. Puis il est fiable à part de ça.
C'est bon, on y va avec ça. Et n'oubliez pas que c'est le temps de faire poser les pneus d'hiver. Il nous reste de la place.
Chez Auto-Québec, on s'occupe de vous.
Prêt à perdre vos feuilles? Elles vous feront rougir comme l'érable à l'automne. Vous auriez envie de vous enlacer dans leurs branches jusqu'à en perdre votre sève. Tous les jours de 9h à 23h, Gentleman Paradise sur l'avenue Branly. Gentlemanparadise.com.
Radio X Files.
Execute program.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files en ce vendredi soir sur les ondes du choix 98h Radio X. Ce soir, Christian Page, on parle des ovnis, des extraterrestres. Et juste avant la pause, bon, je te disais, 3i Atlas, c'est pas mal ce qui fait jaser en ce moment.
Tout à fait. Oui, et dans l'univers là, des ovnis, hein, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ne voit pas sur des sites qui sont consacrés aux ovnis passer de l'actualité à propos de Troy Atlas. Et cette actualité, elle n'est pas seulement alimentée par les amateurs d'ovnis, mais elle est alimentée aussi par des sources beaucoup plus prestigieuses. Et je pense notamment, il y a cette semaine, il y a Evileb. D'ailleurs, Evileb, c'est celui qui a rendu Troy Atlas si...
Célèbre.
Disons ça comme ça. Ouais, voilà. Si populaire. Bon, d'abord, de quoi on parle, hein, pour les gens qui nous écoutent. Puis bon, ils se disent, c'est quoi ce 3I Atlas? 3I Atlas, c'est le nom donné à un objet qui traverse en ce moment notre système solaire. C'est le troisième objet interstellaire. 3I, hein, ça vient de là, le 3I Atlas. Troisième objet interstellaire. Atlas, c'est le système de détection, là, donc, qui a permis d'observer cet objet-là, qui a été observé pour la première fois, là, en début d'été. Et c'est le troisième objet, c'est sûrement pas le troisième à traverser notre système solaire, mais c'est le troisième que l'on peut observer. Le premier, c'était en 2017. On lui avait donné, il avait été détecté par des observateurs à Hawaï, qui l'avaient surnommé Oumuamua. C'était le 1I, mais on l'avait surnommé Oumuamua, qui est un mot autochtone local, là, polynésien, qui veut dire le visiteur venu de loin. Donc, c'était le premier qu'on pouvait observer. Et ensuite, ça, c'était en 2017. En 2019, il y en a eu un deuxième qu'on a appelé Borisov, hein, qui était une comète. Et là, voilà qu'arrive le troisième, 3I Atlas. Bon, cet objet-là, dès qu'il a été observé, donc on sait par la façon dont il est entré dans notre système solaire qu'il provient de l'extérieur de notre système solaire. Il ne vient probablement pas d'une autre galaxie, hein, parce que notre système solaire, il est vaste, il a 100 000 années-lumière. Et ça, on ne parle que de la Voie lactée. Et dans la Voie lactée, on a notre Soleil avec 8 planètes qui gravitent autour. Mais il faut savoir que dans notre Voie lactée, dans notre galaxie, il y a quelque chose comme entre 200 et 400 000... 400 milliards... entre 250 et 400 milliards d'étoiles. Ouf. Ça fait beaucoup d'étoiles. Hein? Ouais. Donc, il vient de quelque part d'autour d'une autre étoile, apparemment. Et bon, à cause de sa vélocité, sa vitesse à travers laquelle il traverse notre système solaire, tout ça, ben, Evileb, hein, c'est un astrophysicien qui est à l'Université Harvard et qui dit, pour différentes raisons, qui seraient trop longues à énumérer ici, mais bon, pour différentes raisons, cet objet-là est très certainement un objet qui vient d'une autre planète, d'une autre planète, d'une intelligence autre. Là. C'est une sonde de fabrication artificielle qui fonce vers nous. Donc, c'est le point de vue d'Evileb. Il faut quand même se dire que Evileb est un peu tout seul dans sa gang. Hein. Quand il y avait eu Oumuamua, hein, en 2017, il avait tenu le même discours. Hein. Oumuamua devait être un engin d'origine extraterrestre. Hein. Non, c'était pas un engin extraterrestre, mais bon, il a aimé ça le raconter, puis bon, c'est parti comme ça. Et là, ben voilà qu'avec le 3I Atlas, il ressort le même discours, c'est sûrement une sonde extraterrestre. Et là, il va même plus loin dans son délire, disant cet objet-là va se placer derrière le Soleil, hein, il va contourner le Soleil quelque part à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Ce serait le meilleur moment pour que des extraterrestres déclenchent une invasion sur Terre.
Et j'imagine que puisqu'il est à Harvard, ça donne une crédibilité à ce discours-là.
Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on appelle dans le discours populaire ou dans le discours argumentaire, c'est ce qu'on appelle le biais d'autorité. Il suffit que quelqu'un dise, moi, je viens de Harvard, puis là, tout d'un coup, ou une police, ou je suis une police, donc ce qu'il dit, c'est sûr que c'est vrai, c'est une police. Ah, je suis un militaire. Ah, c'est un militaire, dit que ça, c'est vrai, c'est ça. Sûr que c'est vrai. Donc là, Harvard, c'est le biais de... Mais il faut savoir que Evileb est tout seul dans sa gang, là. T'as Evileb d'un côté, et de l'autre côté, t'as 100 000 astrophysiciens à travers le monde qui disent, non. 3I Atlas est une comète. C'est rien de plus qu'une comète. Mais évidemment, les amateurs d'OVNI aiment mieux croire Evileb, parce que dans l'univers du paranormal et de l'étrange, souvent, c'est le marginal a toujours raison. Donc, si tu as 1000 gars à gauche qui disent blanc, puis un gars qui dit noir, c'est sûr que c'est le gars qui dit noir qui a raison. Oui. Donc, c'est exactement la philosophie qu'on a. Ce qu'on appelle également, dans le discours argumentaire, l'effet Galilée. Hein, parce que Galilée était tout seul dans sa gang à dire que la Terre tournait autour du Soleil, puis il y avait raison, alors que tout le monde disait l'inverse. Mais bon, Galilée, c'était le Moyen Âge, c'est pas aujourd'hui. Puis Galilée, c'est pas un exemple représentatif, parce que des Galilées en science, c'est plutôt l'exception, c'est pas la règle. Donc, alors que t'as 1 000 ou 100 000 scientifiques qui disent blanc, puis l'autre qui dit noir, t'as bien des chances que ce soit blanc. C'était de l'argent à gager, là, gage sur le blanc. Donc, c'est un peu la même chose ici. Et encore, d'ailleurs, cette semaine, Il y a un article qui a été déposé pour être publié. Il ne l'est pas encore, mais il a été déposé dans le Nature Astronomy, qui va être donc publié au cours des prochains jours. Parce que il y a quelques semaines, la NASA est intervenue dans cette fameuse folie 3i Atlas. La NASA s'est sentie le besoin d'intervenir en disant « Stoppez vos folies, là! » Avileb dit ça, mais Avileb est complètement dans le champ. La réalité, c'est que 3i Atlas ressemble à une comète, se déplace comme une comète, se comporte comme une comète, puis c'est très certainement une comète. Donc, arrêtez de triper autour de ça, puis de monter ça en épingle en disant « je suis un engin extraterrestre ». Et là, il y a eu la NASA il y a quelques semaines, et là maintenant, ce sont des chercheurs du SETI. Le SETI, c'est le Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc, c'est un groupe de scientifiques tout à fait sérieux. Là. On n'est pas ici dans les petits hommes verts, se coupe volante. Là. Ce sont des chercheurs qui travaillent à des programmes qui visent à écouter l'espace. Ces programmes-là ont été mis en place dès les années 60. Et on écoute l'espace dans l'espoir de capter un signal radio qui pourrait avoir une technosignature, d'être peut-être d'origine extraterrestre. Pour la plupart des gens qui nous écoutent, ils ont probablement découvert l'existence de ce programme SETI à travers le film Contact, qui mettait en vedette Jodie Foster, là, qui montrait un peu c'était quoi ce fameux projet SETI. Donc, les chercheurs du programme SETI se sont sentis, eux aussi, le besoin d'intervenir. Et ils ont donc déposé un article qui actuellement est en révision, mais qui devrait être publié dans les prochains jours dans le Nature Astronomy. Et l'article s'intitule 3i Atlas. Why? Hein, why? Why 3i Atlas is not an alien probe? Hein? 3i Atlas, pourquoi ce n'est pas une sonde extraterrestre? Donc, il y a tout l'argumentaire qu'il développe et qui revient exactement au discours qu'a tenu la NASA il y a 2 ou 3 semaines, à savoir que 3i Atlas n'est rien de plus qu'une comète. Et ce qui ajoute à ça, tu vois, quand les gens veulent être malhonnêtes, hein, à un moment donné, là, l'intérêt, ou comment je pourrais dire, la fascination tombe dans la malhonnêteté. Il y a quelques jours, hein, il y a une semaine et demie à peu près, là, c'était, je pense, le 4 octobre, sur Mars, la sonde Persévérance qui est là, donc l'astromobile Persévérance qui est là depuis quelques années maintenant, ce fameux petit robot là, qui se promène puis qui prend des images de Mars, comme si on y était, hein, et on peut suivre au quotidien le déplacement de Persévérance. D'ailleurs, Persévérance qui est pilotée depuis le centre du JPL Center en Californie, par une Québécoise hein, qui pilote la sonde sur Mars, ben, qui est une des pilotes de la sonde. Donc, elle le déplace, puis bon, on va visiter des lieux. Et donc, c'était le 3 ou le 4 octobre dernier, la tête robotisée de Persévérance était tournée vers le ciel de Mars et il a photographié un objet qui, les photos nous montrent un objet qui ressemble à un cylindre lumineux dans le ciel. Et on sait que le même jour également, une sonde en orbite, le même jour ou le lendemain en fait, une sonde en orbite autour de Mars a photographié 3i Atlas. Et là ici, c'est ici qu'on voit une malhonnêteté. La photographie, hein, retiens ça là. La photographie prise sur Mars par Persévérance ne montre pas 3i Atlas. Le cylindre que l'on voit dans le ciel, le cylindre lumineux, c'est le déplacement avec une très longue exposition de Phobos, l'une des lunes de Mars. Hein, Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Hein, c'est 2 gros rochers qui tournent autour de Mars. La plus grosse de ces lunes, Phobos, était donc visible. Et Persévérance a fait une photographie avec une très, très longue exposition, ce qui explique le fait que si ça avait été un instantané, disons ça comme ça, ça aurait été qu'un point lumineux. Mais comme on a pris une longue exposition, ce point lumineux est devenu un trait de lumière dans le ciel. C'est pas l'objet qui a cette forme-là. C'est le déplacement de l'objet dans le ciel durant la prise de vue, la prise de la photo par la sonde Persévérance. Cette photo-là, qui circule abondamment dans les milieux qui s'intéressent aux soucoupes volantes et aux ovnis, puis qui nous montre ça en disant « Voilà, preuve que ce n'est pas une comète, regardez, c'est un cylindre de lumière, c'est un engin extraterrestre. » Non. C'est le déplacement de Phobos dans le ciel de Mars. Mais c'est vrai qu'une sonde russe, qui est une sonde d'origine russe et de l'Agence spatiale européenne en orbite autour de Mars, qui est là pour documenter le champ magnétique de Mars et d'autres rayonnements de Mars, a tourné son objectif vers 3I Atlas et l'a photographié. Cette photo-là, qui est la photo de 3I Atlas, montre bel et bien un point lumineux suivi d'une traînée lumineuse, exactement ce à quoi ressemble une comète. Donc, la photo prise autour par la sonde martienne en orbite autour de Mars montre bel et bien 3I Atlas et ce qu'elle montre, c'est une comète.
Bon.
Donc, faut quand même, faisons cette distinction-là. Bref, tout ça pour dire que même si encore Evie Leb cette semaine nous est ressorti en disant « Je suis persuadé de 30 à 40 % que le 3I Atlas est une sonde extraterrestre », il faut quand même le dire, tous les éléments, photographies, les relevés à travers le monde entier par tous les astrophysiciens et astronomes du monde montrent bel et bien que 3I Atlas n'est rien de plus qu'une comète qui se dirige vers le Soleil, qu'elle va contourner et qu'elle ensuite de ça, elle va quitter notre système solaire.
La donc, elle se rapprochera même pas de la Terre. Là.
Ouais. Au point le plus proche de la Terre, quand elle va passer le plus proche de la Terre avant de contourner le Soleil et de s'éloigner, elle sera à plusieurs millions de kilomètres de la Terre. Donc, je ne sais pas dans ton agenda à toi si quelques millions de kilomètres c'est vrai ou pas, là, mais dans mon livre à moi, c'est assez loin. La question que je me pose honnêtement, Nick, c'est tous les gens qui racontent ça et qui se font les propagandistes de cette histoire-là, est-ce qu'ils vont s'excuser au 15 de décembre?
Ben, là, ils vont trouver une raison pour dire... Ah,
tu sais, quand va arriver le 15 de décembre, puis que là, l'invasion extraterrestre se produira pas, puis que là, ils vont découvrir que tous les posts qu'ils ont faits sur les médias sociaux étaient, excuse-moi l'expression, mais de la bullshit, est-ce que ces gens-là vont dire à tous ceux qui nous ont lus, à tous ceux qui nous ont écoutés déblatérer sur 3I Atlas, qui finalement... n'était rien d'autre qu'une comète, comme tous les astrophysiciens disaient, est-ce qu'ils vont dire « on s'excuse de vous avoir désinformé » Est-ce qu'on va s'attendre à ça?
M'étonnerait beaucoup. Il y aura, d'après
moi... Ça m'étonnerait beaucoup.
Ouais, ils vont trouver des raisons là, pour expliquer...
Tout à fait. Et ce qui montre l'importance... Hein, il y a eu au cours de la dernière année écoulée, il y a eu un projet... qui a été fait par le gouvernement canadien, qui s'est appelé Ciel Canada. J'en ai parlé à quelques reprises, puis je suis content d'y avoir participé, même si c'est très légèrement, comme consultant. Donc, tu sais, les gens de Ciel Canada m'ont appelé, puis vous pensez quoi? Puis on a eu des discussions. Et le projet de Ciel Canada était un peu dans la foulée de ce que les Américains font. Hein. Donc, les Américains ont mis ce fameux projet Arrow dont on a parlé pour enquêter sur les ovnis. Et là, Ciel Canada se disait, est-ce que ce serait utile pour nous, les Canadiens, de mettre de l'avant un programme pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés. Je sais que quand le projet a été publié, a été rendu public au début de l'été, plein de journaux disaient « Le gouvernement canadien crée son organisme pour enquêter ses ovnis. » Non, non, il ne crée pas un organisme. Il a créé un projet qui est une suggestion. Hein, la suggestion va être déposée au Parlement canadien et là, ça sera aux autorités canadiennes, au gouvernement de M. Carney de décider si oui ou non on va aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, on est loin entre la création de l'organisme et le dépôt d'une proposition. Il y a loin de la coupe aux lèvres, là, quand même. Donc, mais ce qu'il faut retenir du projet de Ciel Canada, et on le voit là, avec 3I Atlas, on voit l'importance de ça. Le projet de Ciel Canada consacre énormément d'espace dans son projet pour dire l'importance de lutter contre la désinformation et la mésinformation. Et en particulier lorsqu'il est question de phénomènes aériens non identifiés. Très rapidement, on perd le contrôle et ça devient n'importe quoi. Et on le voit avec 3I Atlas, malgré qu'on a tout le discours scientifique des gens, les gens les mieux informés. Les gens les mieux informés, ben c'est les gens de la NASA, c'est les gens qui travaillent à des programmes qui surveillent les astéroïdes et les comètes. C'est des gens comme le programme SETI. Ces gens-là, on le regarde tourner vers l'espace et leur travail, leur job, c'est de documenter ces phénomènes. Et ces gens-là disent, non, 3I Atlas, c'est une comète. Et de l'autre côté, on a une espèce de professeur un peu tournesol qui nous sort de son bureau à Harvard. Puis dit, moi, je pense que c'est un vaisseau extraterrestre. Et tout le monde se met à triper autour de ça. Et là, donc, on voit l'importance de mettre en place un mécanisme qui permettrait aux gens de bénéficier d'une information de qualité. Et dans le projet de 3 de Ciel Canada, c'est de dire toutes les histoires d'OVNI et tout le reste, on devrait remettre ça entre les mains d'un organisme reconnu et respecté du public. Principalement, on pense notamment à l'Agence spatiale canadienne. Et à partir de là, les gens pourraient avoir une source crédible vers qui se tourner. Tu comprends? Donc, si demain matin, des gens qui nous écoutent seraient préoccupés par l'histoire de Troyes Atlas, sans tomber dans le piège de « c'est sûr que c'est des extraterrestres », parce que je le dis souvent, quand on tombe dans les extrêmes, il n'y a plus rien qu'on peut faire. Hein, c'est un peu comme les théories du complot. Tu peux parler à ton beau-frère qui se pose une question en se disant « est-ce que les chemtrails existent? Est-ce que le 11 septembre était une job de l'intérieur? » Tant et aussi longtemps que ça reste un aspect de discussion et de questionnement, on peut discuter. Mais quand ton beau-frère te dit « tous les jours, le gouvernement nous déverse des tonnes de produits chimiques avec des chemtrails. T'as perdu la bataille. Non, ça donne rien d'argumenter, la bataille est perdue. » Donc, c'est un peu la même situation. Donc, les gens qui nous écoutent, bon, ceux qui sont convaincus que c'est un engin extraterrestre, ben, attendons le 15 de décembre pour voir si l'invasion va avoir lieu. Ben, j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Mais pour les gens, monsieur et madame tout le monde, qui se posent des questions, qui disent « Hey, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette histoire de Troyes Atlas? Est-ce qu'il y a une source crédible vers qui je pourrais me tourner pour avoir de l'information à ce sujet-là, puis de savoir de quoi il en retourne? » Ben, avec le projet de Ciel Canada, ce serait de mentionner ou à tout le moins d'établir au sein d'un organisme, et là, ben, pour le besoin de notre discussion, c'est l'Agence spatiale canadienne, un bureau où les gens pourront aller chercher une information de qualité par des gens qui sont respectés, qui sont pas là pour nous vendre des petits hommes verts, nous vendre des livres, des magazines, des conférences ou des trucs comme ça, là. C'est des gens qui seraient là, puis ben là, nous, comme scientifiques à l'Agence spatiale canadienne, on vous assure que 3I Atlas n'est rien de plus qu'une comète. Donc, ça donne... Ayez pas peur, commencez pas à creuser un bunker sur votre maison pour vous protéger contre les invasions extraterrestres, tout va bien. Oui. Les extraterrestres, on les a pas encore vus, ils sont pas encore là. T'sais. Mais bon, on voit l'importance de ça. Et 3I Atlas est exactement l'incarnation de la désinformation et de la mésinformation. Et on le voit, ça se répand à la vitesse grand V dans les médias sociaux.
Mais bref, on verra le dénouement le 15 décembre, mais je pense qu'il n'y aura pas de...
Ah ben, écoute, moi j'ai déjà un bunker.
Ah oui,
j'ai un bunker, j'ai ma petite tuque en papier d'aluminium pour me protéger. Tout ça est prêt. Tu sais, là, je veux dire, mes 3-4 boîtes de conserve, là, ragoût de boulettes, cordon bleu, là, je suis prêt. Tu sais, je veux dire, amenez-en des extraterrestres. Mais bon, j'y crois pas vraiment. Bon, alors, ben voilà, écoute, c'est ça... ce qui est avec 3I Atlas. Puis ça va continuer, c'est-à-dire que même si cet article est publié, là, le Nature Astronomy qui doit publier dans les prochains jours, cette réplique des gens du CETI pour dénoncer que les histoires inventées de Heavy Lab sur les extraterrestres, ben c'est sûr que ça, il y a toute une communauté qui est déjà convaincue et qui croit que cette visite extraterrestre et même l'invasion extraterrestre, elle est imminente. Mais encore une fois, je suis toujours un peu étonné de voir à quel point les gens tombent facilement dans ces fantaisies. Mm-hmm. Et toujours aussi de voir à quel point on n'a pas de mémoire. Tu sais, faut-il rappeler aux gens là, que Heavy Lab, là, c'est le même qui, en 2017, nous disait qu'Oumuamua était un vaisseau extraterrestre. Là,
ouais,
et
mais
qui, finalement,
c'est ça, il s'est
révélé n'être rien... Oui, ouais, c'est ça qui s'est révélé être une grosse roche, là, rien de plus. Là. C'est bon. Puis là, le même Heavy Lab dit l'an dernier, il est allé au lac. Écoute, on a combien de temps qu'il nous reste? Là?
À peu près 5 minutes, à peu près.
Ouais. Et le même Heavy Lab, là, ça, c'est pas beaucoup connu, là, mais le même Heavy Lab, là, lui, il disait qu'il y avait une météorite qui était entrée sur Terre, qui était entrée il y a quelques années dans le ciel au-dessus du Pacifique occidental, et qu'elle avait explosé. Bon, pour les scientifiques, c'était un astéroïde. Mais Heavy Lab a commencé à dire, non, c'est un vaisseau extraterrestre qui est arrivé, puis qui a explosé, puis qui est tombé dans l'océan. Ben, crois-le ou non, il a réussi l'an dernier à faire financer, faut croire que les gens, quand t'as la foi chevillée au corps, hein, donc il a réussi à faire financer une expédition. Ces gens-là sont allés là, au large de la Nouvelle-Guinée, là, dans Nouvelle-Zélande, quelque chose comme ça, sont allés récupérer avec... Heavy Lab a dit, j'ai réussi à déterminer à partir d'un sismographe, ça c'est la clé de l'énigme, il dit, j'ai réussi à déterminer à partir d'un sismographe l'endroit où l'objet a dû tombé, donc sur une surface, okay, une zone d'à peu près 2 km. Donc, il a réussi à faire financer une expédition. Ils s'en vont là. Là, ils passent une espèce d'aimant dans le fond de la mer. Puis là, ils ont ramené des petites spirules métalliques. Alors que là, Evilep dit, ces petites spirules métalliques, c'est certainement des morceaux du vaisseau spatial extraterrestre que j'ai récupéré. Puis il continue de le maintenir, hein. Plutôt, c'est un drôle de type. Plutôt que de dire, tu sais, bah, ben, je me suis trompé, merci, bonsoir. Non, il poursuit, là, tu sais, dans l'obstination maladive.
Refuse d'avoir tort, oui.
Ouais, ouais. Donc, il présente ces petites spirules-là. Les scientifiques regardent ces spirules, les analysent, puis ils disent, non, non, c'est des spirules qui sont tout à fait naturelles. Et elles proviennent, hein, chaque jour, on a des centaines et des centaines de météorites qui entrent dans l'atmosphère terrestre. Hein, en fait, c'est plusieurs tonnes, ouais, par année de roches qui nous rentrent sur... Mais très peu d'entre elles arrivent jusque sur Terre et se désintègrent dans l'atmosphère terrestre. Mais il y a des petits débris qui tombent comme ça dans l'océan, sur le sol, un peu partout. Et alors, tu comprends, comme la Terre a grosso modo 4,5 milliards d'années, ça en fait de la roche qui est tombée sur Terre. Ces petites spirules que trouvait Evilep n'est rien de plus que, appelons ça comme ça, de la poudre spatiale. Il y en a partout sur Terre, des petites spirules comme ça. C'est de la poudre spatiale. C'est des restants de météorites qui sont entrés sur Terre. Donc, Evilep lui dit, non, non, il continue de maintenir, contre l'avis de tous les scientifiques, hein. Non, non, c'est sûr que c'est des débris d'un vaisseau spatial. Et le pire, c'est quand on a regardé sur quoi s'était basé Evilep pour déterminer l'endroit où était tombé son soi-disant vaisseau spatial, on a découvert que les relevés du sismographe qu'il a utilisé, c'est des relevés d'un sismographe qui était placé juste à côté d'un chantier qui était en construction à ce moment-là. Donc, le sismographe ne détectait pas l'entrée dans l'atmosphère terrestre d'un objet venu de l'espace,